Et ce matin, je voudrais parler justement de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. L'effusion, l'œuvre de l'Esprit en nous. Que ferions-nous sans l'action et l'œuvre de l'Esprit dans nos vies? Pas grand-chose. Alors, nous allons nous laisser éclairer et on ressent souvent des esprits abattus. Et les raisons en sont multiples. Nous avons beau avoir la meilleure volonté du monde, mais force est de constater que nous ne sommes pas toujours fidèles à nos engagements à suivre le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que nous perdons souvent courage. Nous sommes même prêts à abandonner, eh oui, le chemin de la foi. Nous ne voulons, nous ne croyons plus. Nous avons du mal. Nous sommes découragés. Parce que nous ne voyons pas le changement espéré en nous-mêmes. Seigneur, je ne change pas. Je tombe toujours encore dans les mêmes travers. Je tombe encore dans les mêmes difficultés. Je tourne en rond. Alors, nos défaillances et nos travers nous rattrapent et nous subissons quelquefois des échecs à répétition, n'est-ce pas? Nous sommes tous éprouvés d'une manière ou d'une autre et cela engendre le découragement. Alors, ce qui se passe, frères et sœurs, souvent, nous avons un regard méprisant sur nous-mêmes. Nous nous sentons indignes. Nous sommes frustrés et nous nous disons quelquefois « Oh comment, Seigneur, peux-tu encore m'aimer ?»« Seigneur, oh combien peux-tu encore m'aimer avec tout ce que je fais, avec toutes mes faiblesses, tous mes manquements, tous mes défauts, toutes mes souillures dans lesquelles je me trouve quelquefois et même peut-être le péché qui m'enveloppe. » Alors, on perd l'estime de soi et on est dégradé, découragé. Et on se dit, je peux plus revenir vers le Seigneur car je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Seigneur, j'en suis indigne. Et un éclairage sur comment nous fonctionnons va peut-être nous apporter des solutions et des clés pour pouvoir justement aller plus loin malgré ces découragements, malgré ces obstacles. Même si nous nous dénigrons nous-mêmes, on a besoin de l'éclairage de l'esprit sur notre personne. Alors un éclairage et une projection sur notre esprit, âme et corps nous aidera à sortir de ces méandres, de ces pensées. Parce que si nous comprenons comment nous fonctionnons, ça va nous aider justement à nous extirper de ce qui nous avilise, de notre moi charnel, de notre moi naturel. Alors, nous avons tous reçu, et nous l'avons chanté, nous sommes appelés à servir, nous sommes sauvés pour servir. Nous avons tous reçu l'appel de Dieu, déjà l'appel de Dieu à salut. Et nous avons reçu l'appel de Dieu sur nos vies. Voilà, quand on se souvient de notre conversion, quand Dieu est intervenu sur notre chemin, sur notre route, oh quelle grâce. C'était vraiment l'appel de Dieu. Dieu nous a attirés par l'œuvre de son esprit afin que nous puissions saisir la grâce de Dieu, afin que nous puissions saisir l'œuvre de la croix, afin que nous puissions saisir ce sacrifice de Jésus mort pour tous ceux qui croient en lui et qui acceptent par la repentance le sacrifice de Jésus. Alors, je voudrais ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir l'appel de Dieu sur le prophète Ésaïe. Et vous connaissez tous ces versets, pour la plupart. Donc c'est dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, où il est dit, « Donc, c'est Ésaïe. Et suite à la vision que Ésaïe a eue, suite à ce vécu dans la gloire de Dieu, il dira à un moment donné, « Malheur à moi !» Alors, dans Ésaïe chapitre 6, au verset 5, il dira, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, alléluia, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, gloire à Dieu, et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alors pour nous, frères et sœurs, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons souvent du mal et nous arrive d'avoir des difficultés à accepter et à nous approprier les vérités spirituelles. Nous avons du mal à nous saisir de ce que Dieu nous a donné. Nous avons du mal à prendre possession de l'héritage de Dieu au travers de l'œuvre de la croix où il est dit « Tout a été accompli ». Nous n'avons rien à y rajouter, rien à y retrancher. Tout nous a été donné. Nous sommes co-héritiers avec Christ au travers de l'œuvre de la croix. Et nous avons souvent du mal avec cela parce que nous nous tournons et nous détournons notre regard de l'œuvre de la croix pour regarder à nous-mêmes. Et quand nous regardons à nous-mêmes, quand nous voyons nos manquements et nos faiblesses, certes, ces manquements et son faiblesse, c'est là, on sont là. Certes, peut-être des addictions sont là. Certes, peut-être le péché, on y est peut-être tombé. Ce sont des choses vraies. Mais devons-nous pour autant rester dans cette condition, dans cette situation? Alors l'Esprit de Dieu veut attester et atteste la parole de Dieu en nous. Par la foi, frères et sœurs, nous croyons et l'Esprit atteste et confirme ce que nous croyons au travers de la parole de Dieu. Et souvent, quand on lit la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, je pense à tous ces hommes, à tous ces théologiens qui peuvent lire la parole de Dieu, qui peuvent l'énumérer, qui peuvent citer des versets de l'Ancien Testament, des chapitres peut-être entiers, des histoires entières, et du Nouveau Testament également, mais ils n'ont pas la vie de l'Esprit. Lire la parole de Dieu, sans l'action et sans l'œuvre de l'Esprit, c'est une parole qui est morte, qui reste vide de sens. Alors pour beaucoup qui lisent la parole de Dieu, nous pouvons entendre ça sur les plateaux de télévision quelquefois, la Bible, la parole de Dieu, ce sont des belles histoires. Voilà à quoi sont limites ces hommes et ces femmes qui ne sont pas passés au travers de l'œuvre de la croix, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas nés de l'Esprit. Alors laissons ce matin, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous a attesté ce que nous sommes en Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour de Dieu. Lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Donc il n'y a aucun mérite de notre part, n'est-ce pas? Il n'y a aucun mérite de notre part. Nous n'étions pas meilleurs qu'une autre personne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. La mort de Jésus sur la croix nous purifie de tout péché. Des péchés passés, présents et futurs. Alors les péchés passés, on peut peut-être un petit peu les comprendre, les péchés présents, oui, un petit peu, mais les péchés futurs, là, on a peut-être plus de mal à comprendre. J'étais pas devant l'œuvre de la croix il y a 2000 ans. Et pourtant, mes péchés étaient déjà effacés. Alléluia. Ce matin, vous aurez peut-être des impacts de paroles qui vont vous amener à réfléchir. Quand vous sortirez de ce lieu, il y aura des choses qu'il faudra rechercher, qu'il faudra assimiler, comprendre et assimiler. Et il faudra vous laisser éclairer par la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés passés, présents et futurs. Ça a déjà été accompli. Seigneur, dans le péché dans lequel je me trouve, il a déjà été lavé, déjà été purifié. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à l'œuvre de la croix? C'est ma repentance. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. C'est au travers de la repentance que la puissance du sacrifice de Christ est active en moi, mais tous mes péchés ont déjà été effacés. J'ai juste besoin de rentrer par la voie de la repentance afin que les choses s'accomplissent. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on se laisse accabler par un péché, nous sommes affaiblis déjà d'une part. Nous perdons la communion et la relation avec Dieu d'autre part, et nous sommes comme figés, nous ne pouvons plus avancer. Par contre, si je me projette en me disant, Jésus, dans le péché dans lequel je me trouve, tu l'as déjà payé, tu l'as déjà purifié, et en cela j'ai l'assurance de pouvoir m'approcher du trône de la grâce par la repentance, ça m'encourage. Et si je me dis, mais Seigneur, oui, combien de fois Jésus ne peut pas mourir pour chaque péché, chaque fois? Jésus est mort et ressuscité une fois pour toutes. Et dans ce une fois pour toutes, tout a été purifié, accompli, tous les péchés ont été lavés. Par la résurrection, nous sommes passés, frères et sœurs, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il est immuable, inaltérable, ineffable, incommensurable. Qui peut en sonder les profondeurs de l'amour de Dieu? Qui peut sonder la profondeur de l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu, frères et sœurs, m'aimerait-il plus ou moins par le fait que j'ai fauté aujourd'hui? Comment êtes-vous devenu au culte ce matin? Avec votre faute, avec votre souillure, et on en a tous, moi le premier. Est-ce que Dieu m'aime plus ou moins parce que je suis tombé dans la souillure? Posez-vous la question. Parce que on a lu le verset de Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Alors aujourd'hui, ce n'est pas mes erreurs et mes fautes qui vont enlever l'amour de Dieu pour moi. Dans l'esprit, frères et sœurs, esprit, âme, corps. Nous sommes nés de nouveau dans l'esprit, et dans l'esprit, nous sommes devenus justes, acceptables devant Dieu. Extraordinaire. Ce ne sont pas nos raisonnements, nos théories religieuses, notre intelligence rationnelle, nos émotions, nos pensées qui nous disent, qui confirment les choses, mais c'est l'Esprit par la foi en la parole. Et il nous est dit, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, Romains 3, 24. Et nous avons reçu le droit d'être enfants de Dieu, Jean 1, verset 12. Alors, frères et sœurs, nous passons de pécheur au statut d'enfant de Dieu. Ouh là là, ouh là là. Là, ça se complique peut-être un petit peu. Nous passons d'une nature pécheresse au statut d'enfant de Dieu. Alors, j'entends déjà dans les pensées, oui, mais quand je pêche, comment je suis? Le problème, nous avons du mal à comprendre ces choses et à les accepter. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés par nos faiblesses et nos manquements. Et se prétendre, dire et être enfant de Dieu, ça a du mal quelquefois à sortir. Alors, on aimerait peut-être avoir dans notre fond de tiroir à la maison une attestation spécifique d'enfant de Dieu. J'ai un acte de mariage. On a tous des contrats, des actes de naissance, une carte d'identité et beaucoup de choses encore qui justifient ce que nous possédons, ce qui justifie qui nous sommes. Quand vous avez votre carte d'identité, ben voilà, je vais pas regarder tous les 5 minutes dans le tiroir où je prends ma carte d'identité pour savoir si je m'appelle Muller Eric. Je suis marié à Fabienne. J'ai un acte de mariage. Je ne vais pas ouvrir tous les 5 minutes mon acte de mariage pour savoir si je suis marié. Je le sais. Et nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ce ne sont pas nos raisonnements. Ce ne sont pas notre humeur du jour qui va nous dire une fois je suis enfant et une fois je suis pécheur et une fois je ne suis plus enfant. Nous sommes enfants de Dieu une fois pour toutes. Nous avons été rachetés par le sacrifice de Christ. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai aucun document spécifique, si matériellement j'ai la Bible qui me l'atteste. Alors ouvrez à nouveau votre Bible pour relire que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils ou filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates 4, chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi hérité par la grâce de Dieu. Par la foi, frères et sœurs, nous sommes justifiés. Par l'Esprit, nous sommes régénérés. Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Avant notre conversion, nous marchions selon le ressenti, le visuel, le toucher, le goût. On fonctionnait âme-corps, 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 âme-corps. Voilà comment on fonctionnait avant d'être enfant de Dieu. Et quand Dieu nous a touchés, par notre nouvelle naissance d'esprit, nous sommes éclairés. Aujourd'hui, nous marchons esprit, âme, corps. Aujourd'hui, l'esprit a l'ascendance sur mon âme et mon corps. Aujourd'hui, je peux vaincre, je peux résister à tout ce qui peut être charnel, parce que j'ai la puissance de Christ, la puissance de vie en moi par l'Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc nous avons, comme je l'ai dit, changé de nature et de statut au travers de l'œuvre de la croix. Je suis passé d'une nature charnelle, pécheresse, à un être spirituel juste. Oula. Je suis passé d'une nature charnelle à un être spirituel juste. Et je suis passé du statut d'enfant de la rébellion. Avant de connaître Christ, comme dit la parole de Dieu, nous étions les enfants de la rébellion. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Je vous pose une question. Pouvons-nous encore nous considérer comme des pécheurs? Je me souviens que j'ai mis des décennies à le comprendre. Quand les anciens, quelquefois, me disaient, ils n'étaient pas trop nombreux. Mais quand ils me disaient que je ne suis plus pécheur, je n'arrivais pas à comprendre. Parce que comment ne puis-je plus être pécheur si je pêche? Si je pêche, je suis un pécheur. Je n'arrivais pas à comprendre. Il m'a fallu des décennies pour comprendre. Vous savez, on peut lire la parole de Dieu pendant X années, X temps. On peut peut-être lire un verset de multiples façons ou facettes, quelquefois, sous multiples versions. Et à un moment donné, boum! Il y a un éclairage qui se fait, il y a une conviction qui naît, il y a une attestation de cette parole de Dieu, et cette parole de Dieu devient tout d'un coup vivante, et pourtant, auparavant, nous l'avons lu X fois. Et j'arrivais jamais à trouver les composants, justement, du fait que nous sommes plus pécheurs. Et nous avons du mal avec cela. Et c'est pour ça que nous nous sentons indignes de nous approcher de Dieu, parce que nous entendons souvent ces paroles. Je suis un pécheur sauvé par grâce, n'est-ce pas? On entend ces choses quelquefois. Je ne le dis plus. Je ne le dis plus. Je dis maintenant, je suis un homme sauvé par grâce. Parce que je suis un pécheur sauvé par grâce, cela nous place dans un entre-deux perplexe. Encore pécheur de nature, vivre sous la grâce et sous l'action de l'Esprit, est-ce possible? Est-ce une bonne orientation spirituelle que de dire que je suis un pécheur sauvé par grâce? Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, il nous est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il n'est né de Dieu. Je vais développer, je vais continuer. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'unit avec le Seigneur devient un avec lui. Dieu n'est-il pas trois fois saint? Dieu n'est-il pas pur, juste, parfait? Pourrions-nous être avec Dieu en tant que pécheur? Posez-vous la question. Dans l'esprit, frères et sœurs, il n'y a pas de péché, car notre esprit est né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et pour comprendre ces choses, je suis passé par une réflexion toute simple. Quand je suis né charnellement, physiquement, biologiquement de mes parents, je suis né d'une nature pécheresse. J'arrive bien à comprendre. Mais est-ce que nous comprenons que nous sommes nés de Dieu? Et si nous sommes nés de Dieu, pouvons-nous encore être pécheurs? Est-ce qu'en Dieu, il y aurait quelque chose de sale, de souillé? Lui, trois fois saint, pur, juste? Hein? Alors, je suis né de Dieu. Un enfant de Dieu est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il n'y a pas de péché. Impossible. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas de péché. Pas de souillure. Éphésiens chapitre 1 verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Nous sommes unis, notre esprit. On fait souvent la distinction, oui, l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu en moi traverse mon esprit. Et j'ai la communion avec Dieu par mon esprit. Il faut que j'aligne mon âme à mon esprit. Et mon corps, lui, va suivre. Mais le problème qui se passe, c'est quand nous regardons plus à Dieu, nous écoutons les voix naturelles ou de la chair qui nous dévient. Que se passe-t-il? Ah ben, notre communion avec Dieu se floute et puis nous rentrons dans les actions, dans les œuvres de la chair. Il faut, frères et sœurs, que notre esprit, notre propre esprit, a l'ascendance sur notre âme. Et notre chair va de toute façon suivre. C'est comme une voiture, une remorque. Vous avez le conducteur dans la voiture. C'est l'esprit, on va dire. Vous avez la carcasse de la voiture qui est l'âme et vous avez la remorque qui est la chair. Si le conducteur, il tourne à droite, il a l'intention de tourner à droite, le véhicule va à droite et la remorque, elle suit. Il faut que nous puissions comprendre un petit peu comment nous fonctionnons, avoir cet éclairage qui va nous aider justement à sortir, à pas nous laisser entraîner par la remorque. C'est pas la remorque qui doit nous conduire. Ça peut arriver quelquefois, hein. Mécaniquement, je parle. Quand vous avez une remorque qui est trop chargée, que vous commencez à monter une pente et que la voiture n'est plus assez puissante, c'est la remorque qui va vous tirer. Hein. Elle va vous faire revenir. Hein. Ah, oui. Ou souvent, quand vous avez des... pour certains, je ne sais pas s'il y a des chauffeurs routiers parmi nous, mais souvent, lors de verglas ou de plaques glissantes, vous avez le tracteur, la motrice, eh ben, qui reste sur place, et puis la remorque qui commence à perdre l'adhérence, et ils appellent ça un portefeuille. Vous avez d'un coup la remorque qui vient justement se plaquer, elle veut vous dépasser. Donc, frères et sœurs, pour en revenir, c'est à nous d'assujettir notre âme, nos pensées, par l'action de l'esprit. Donc, nous sommes scellé, uni, emboîté, fusionné en Christ. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça l'œuvre de la croix. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes unis en Christ. Et les réalités spirituelles, frères et sœurs, ne sont pas de l'ordre du ressenti. Si nous sommes infidèles à nos engagements spirituels, si nous avons fauté, et même péché. Si notre cœur nous condamne, dit la parole de Dieu, Dieu est plus grand que notre cœur. Dans l'esprit, nous demeurons, frères et sœurs, toujours et encore enfants de Dieu, malgré nos fautes et nos faiblesses. Parce que notre esprit est scellé en Christ. Ah, je disais que, certes, le péché peut nous atteindre, ou nous pouvons tomber dans le péché. Mais est-ce que ce péché ne touche pas uniquement notre âme et notre corps? Si mon esprit est uni en celui de Christ, pur, saint, vrai, juste, comment peut-il y avoir de souillure et de péché si je suis uni à Christ avec mon esprit? Donc si je suis touché par le péché ou la souillure, ça concerne mon âme et mon corps. Et en cela, parce que mon esprit est pur, parce que mon esprit est saint, parce que je suis né de Dieu, je peux m'approcher du trône de la grâce, toujours et encore. Alors, pour imaginer mes propos, si nous avons le mur blanc derrière moi, personne ne peut contester que c'est un mur blanc. Si c'est ce mur blanc, je trempe mes doigts dans de l'encre noire et je projette l'encre noire, on va y avoir des taches, n'est-ce pas? Alors, Si ces taches noires sont sur le mur blanc, est-ce que mon mur sera un mur noir? Ou est-ce que c'est un mur blanc qui est entaché? C'est plutôt un mur blanc qui est entaché, n'est-ce pas? Alors, quand nous sommes dans la souillure ou dans nos faiblesses, quand nous nous avilisons, quand nous disons « je suis plus indigne, Seigneur, parce que je suis entaché », ah ben Dieu te dit « tu es toujours mon enfant ». Est-ce que, quand nous commettons une faute, est-ce que Dieu nous tourne le dos? Du côté de Dieu, non. De notre côté, qu'est-ce qui se passe? De notre côté, quand nous fautons, ah ben notre relation devient difficile et compliquée avec Dieu. On ressent quand on prie qu'il y a des choses qui passent plus comme elles devraient passer. C'est flouté. Et nous avons cette communion qui commence à s'étirer. Et plus que nous restons dans la faute, et si le péché nous atteint, eh ben cette communion du côté de l'homme, du côté de l'enfant de Dieu, est rompue. Mais Dieu est toujours là. Il nous ouvre les bras, toujours. Et Dieu nous communique son esprit dans notre esprit que je suis enfant de Dieu. Et Dieu nous dit, mon enfant, tu peux toujours revenir à moi. Et si nous comprenons ces choses par l'esprit et par la foi, ah ben l'esprit nous invite toujours sur le chemin de la repentance. Laissons la sainteté de notre esprit nous conduire sur le chemin de la repentance. Parce que Dieu nous tend toujours les bras. Parce que nous croyons souvent que quand nous fautons, ben Dieu nous tourne le dos, non. Nous pouvons prendre l'exemple des 100 brebis. S'il y en a une qui s'égare, Dieu laisse les 99 autres dans la bergerie, sous de bonnes gardes, en sécurité, et va chercher la brebis perdue. Vous avez la très belle histoire dans Luc du fils prodigue. Le fils prodigue dira à un moment donné, quand il avait tout dilapidé, quand il a dilapidé tous les biens de son père, tout l'héritage du père, il se dira à lui-même, il faut que je retourne chez mon père. Étant dans la souillure, dans la boue, avec les cochons, il est rentré en lui-même et s'est dit, il faut que je retourne chez mon père. Et il s'est dit, je ne suis plus digne d'être appelé son enfant. Et il retournera chez son père. Et qu'a fait le père? Au début, quand je lisais ces textes, je me suis toujours dit que je voyais toujours le fils prodigue qui courait vers les bras du père. Mais non. C'est le père qui a couru dans les bras du fils prodigue. Et quand ils se sont rencontrés, le fils dira, « Père, je suis plus digne d'être appelé ton enfant. » Comment a réagi le père? Dieu l'a autant, le Père l'a autant aimé quand il était les pieds dans le bourbier, dans la souillure, quand son cœur était dans le péché. Dieu l'a aimé autant que là, lors des retrouvailles. Et Dieu lui a remis cet anneau et des habits de noces, des habits de fête, extraordinaire. L'amour de Dieu pour nous. Ne doutons pas, frères et sœurs, de l'amour de Dieu. Parce que l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix, c'est une œuvre d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. L'œuvre de la croix, c'est l'amour de Dieu. Si le Christ est en vous, Romains chapitre 8, verset 10, votre corps reste tout de même destiné à la mort. Voilà. Notre corps n'a pas besoin d'être régénéré. Notre corps, lui, est dans la phase de dégradation. Nous allons retourner en poussière. Les cimetières en témoignent. Avec notre corps, il n'y a plus rien à faire. Mais attention, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut pas entretenir notre corps. Nous devons entretenir notre corps autant que possible, mais nous réalisons que nous sommes dans cette horde de vieillissement et dans cette dégradation. Jésus n'est pas mort sur la croix pour restaurer notre corps, mais pour que nous ayons un jour un corps nouveau. Par contre, il est dit, mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. L'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Alors, frères et sœurs, quand nous nous approchons du trône de la grâce, on peut se dire, Seigneur, oui, mon esprit est uni à ton esprit parce que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis passé d'une nature charnelle, pécheresse, à celui d'enfant de Dieu. Je ne suis plus un pécheur, je suis un enfant de Dieu qui peut être souillé, qui peut être touché par le péché. Mais un enfant de Dieu qui est touché par le péché n'est plus de nature pécheresse, n'est plus un pécheur. Mais un enfant de Dieu qui a fauté. Voyez la différence? Si vous avez un de vos enfants qui fait une grosse bêtise, il portera toujours encore votre nom, malgré la bêtise qu'il aura faite. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Si nous pouvons rompre une relation avec un enfant parce qu'il a commis quelque chose de grave, c'est l'amour humain. Mais nous étions encore pécheurs que Dieu nous a aimés. Grande différence. Amour de Dieu qu'on peut pas comparer à l'amour humain. Alors, néanmoins, quand un de vos enfants vient sale ou souillé, il sera toujours encore votre enfant. Il sera toujours encore votre enfant. Alors, si nous transposons, pour terminer, parce que je sais que c'est un petit peu difficile et compliqué, pourquoi? Parce que nous avons été éduqués, enseignés, selon un certain principe, modèle, et en fonction de nos capacités intellectuelles, de compréhension, de projection, nous avons assimilé une certaine façon de comprendre, de voir. Et quand spirituellement, nous devons être, comme le dit la parole de Dieu, renouvelés dans notre intelligence pour comprendre les choses spirituelles. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Alors, notre esprit doit avoir l'ascendance sur nos pensées, sur notre intelligence. Et nous devons demander à Dieu d'être renouvelé dans notre façon de penser et notre intelligence. Pourquoi? Pour nous appuyer vraiment sur la parole de Dieu par la foi. Parce que se passe-t-il? Je prends maintenant l'exemple d'une guérison. Si vous lisez Ésaïe chapitre 53, verset 5, « C'est par tes meurtrissures, Seigneur, que je suis guéri. » Si par la foi vous appuyez sur cette parole, que se passe-t-il? Vos pensées naturelles, vos pensées qui ont été éduquées, par lesquelles vous comprenez, on est comme formaté, on a du mal à comprendre ces choses. Il faut être réorienté spirituellement, il faut demander le renouvellement de notre intelligence et de notre pensée afin de rester appuyé sur la parole de Dieu. Seigneur, je sais qu'en toi, j'ai la guérison. Et c'est difficile, là, parce que nous avons un raisonnement que nous gardons. Et c'est ça la régénération. C'est ça la sanctification. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide justement à être renouvelés, à être régénérés, afin que nos pensées et notre façon de comprendre s'alignent avec celles de l'Esprit. Et quand nos façons de penser sont alignées avec celles de l'Esprit, ça va se répercuter sur notre corps. On ouvre l'action de l'Esprit de Dieu sur nous. Alors, si certains ne sont pas guéris, il faut peut-être aussi chercher la solution, ou peut-être une réponse, enfin la solution, peut-être une réponse, que nous aurons, ou peut-être que nous n'aurons pas. Parce que Dieu, au travers de la maladie, Il veut encore façonner. Il veut encore peut-être nous donner de comprendre. Parce que, comme les 10 lépreux qui ont été guéris, un seul est revenu auprès de Jésus. Où sont les 10 autres? Si c'est être guéri pour être perdu, ça vaut pas la peine. Alors, par la foi, nous pouvons être guéris. Et par la foi, nous pouvons recevoir également ces réponses. Mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas guéri instantanément? Pourquoi dois-je passer par une opération? Pourquoi dois-je passer par diverses épreuves? Pourquoi dois-je passer par ces souffrances? On n'aura peut-être pas les réponses. Mais je viens de lire un petit feuillet là qui me vient juste à l'instant, je ne sais plus, je crois que c'est le feuillet de calendrier Bonne Semence ou autre. Je lis quelquefois deux, trois choses. Et c'est un père et un fils qui, leur relation était rompue. Et la maman chrétienne, elle priait toujours pour que le père et le fils se demandent pardon l'un l'autre. Et cette mère, justement, était là sur son lit de mort. Et elle avait son mari et son fils qui étaient là. Et elle demandait justement à ce qu'ils demandent pardon l'un à l'autre, à ce qu'ils se réconcilient. Et ce n'est pas fait. Il a été là, elle priait encore. Ses derniers mots, c'était ça, il faut que vous vous réconciliez, réconciliez-vous. Et à un moment donné, avant son dernier souffle, elle a pris la main du père et la main du fils. Et elle les a réunis sur son corps qui allait expirer. Et les deux, ils étaient là. Ils ont gardé leurs deux mains ensemble. Mais la maman, la femme, a dû mourir et passer par la mort pour avoir cette réconciliation. On ne sait pas les œuvres et les voies de Dieu. On ne connaît pas. Voilà. Mais l'essentiel, c'est justement de laisser l'Esprit de Dieu œuvrer et agir en nous. J'aurais encore des choses peut-être à dire, mais juste pour donner encore un petit éclairage sur le tabernacle, nous avons le Saint des Saints. Aucune personne ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints sans être purifié, sans être lavé de ses péchés. Et le souverain sacrificateur qui œuvrait une fois par an pour le sacrifice des péchés du peuple, au préalable, il devait mettre sa main sur un bouc émissaire et confesser les péchés du peuple et les siens avant de pouvoir expier les fautes de tout le peuple dans le tabernacle. C'est dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est notre esprit. Il n'y a rien de souillé qui peut rentrer dans notre esprit parce que nous sommes scellés en Christ. Et le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas le jour du sacrifice de Christ. Et nous allons prendre la Sainte Cène après. Le voile a été déchiré. C'est Dieu lui-même qui a ouvert ce sanctuaire pour que nous puissions justement avoir cette liberté de rentrer. Alors prenez cette image du tabernacle ou du temple et dites, Seigneur, oui. J'ai ce privilège de rentrer dans le lieu très saint. Je suis sacrificateur, chose extraordinaire. Seigneur, merci pour ton esprit qui m'aide et qui me soutient. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, je vous ai donné quelques petits points. C'est pas facile, c'est pas évident. Et comme je disais, on a une façon de cerner les choses. Mais ayons cette humilité de laisser l'Esprit de Dieu nous donner de comprendre, d'agir, d'œuvrer en nous, et ne pas nous laisser aviliser, ne pas nous sentir indignes, parce que nous sommes plus pécheurs. Nous sommes plus pécheurs, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a un enfant de Dieu, j'ai vu des enfants là avant, c'est extraordinaire, la liberté qu'ont les enfants. Si vous avez un enfant qui joue dans le bac à sable et qui a les mains sales, ben il viendra toujours encore vers vous. Ouais, on n'a pas cette simplicité, nous. Parce que quand on se dit, Seigneur, je suis souillé, je ne peux plus avoir de relation avec toi. Ben Dieu, c'est pas ça. Dieu nous aime, extraordinaire. Amen. Alors, je vous inviterai à vous lever. On va terminer par la prière. Et on va donc prendre en cours la Sainte Cène. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et te remercions pour ta parole. Seigneur, elle est souvent quelquefois compliquée, quelquefois où nous n'avons peut-être pas la portée, la mesure encore, Seigneur, de ce que tu veux nous dire. Mais Seigneur, nous voulons vraiment qu'on laisse ton esprit œuvrer, agir en nous. Saint-Esprit, continue encore à nous éclairer. Saint-Esprit, continue encore à contrôler encore notre vie. Car il est dit dans ta parole, tous ceux qui marchent selon l'Esprit sont fils de Dieu. Et c'est par l'Esprit que nous arriverons à assujettir les œuvres de la chair. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Seigneur, merci de ce que je suis uni en toi par mon esprit et ton esprit est lié. Je suis pur, saint, juste, enfant de Dieu en toi. Alléluia. Seigneur, je te demande pardon s'il y a, Seigneur, des problèmes. Seigneur, s'il y a peut-être des faiblesses ou des défauts. Mais Seigneur, si je peux demander pardon, si je peux m'approcher du trône de la grâce, c'est parce que mon esprit est sans souillure et sans péché. Il y a toujours une porte ouverte. Mon esprit, avec ton esprit, est toujours une porte ouverte à la repentance. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, tu m'aimes tel que je suis. Seigneur, avec mes défauts, mes faiblesses, mais tu viens au secours, Seigneur, de mes manquements. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen.